água de beber, água de beber, camarada. Água de beber.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
Bienvenue dans Vigne et Papilles numéro 6. Aujourd'hui, on va parler de l'organisation de la filière viticole. Qu'est-ce que c'est une appellation? À quoi servent les syndicats? Quelle est la différence entre la production, le négoce, etc. Et pour répondre à toutes ces questions, nous avons envoyé notre reporter national interviewer Olivier Legrand, qui est le délégué général du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, c'est-à-dire l'interprofession qui regroupe tous les vins de notre belle région.
Alors bonjour Christine, oui en effet j'ai été reçue par Olivier Legrand au siège du CIVL à Narbonne, dans des locaux magnifiques, c'est une ancienne chapelle classée, et donc nous avons abordé toutes ces questions-là, qu'est-ce que c'est que l'AOC, l'AOP, l'IGP, un syndicat de vignerons, et tout ce qui se cache un petit peu derrière tous ces termes que l'on peut parfois retrouver en tant que consommateur sur des étiquettes de vin, donc on lui a demandé de nous expliquer un petit peu tout ça dans le détail. Et en fin d'interview, nous avons abordé aussi la question de l'évolution de la filière viticole en termes de protection de l'environnement, le développement du bio, les labels tels que HVE et tout ce qui s'ensuit. On va retrouver aussi, je crois, deux petites pauses musicales.
J'avais envie d'écouter des morceaux de Sting, donc il y aura deux pauses musicales avec Sting tout seul et après avec Mélodie Gardot, qui est une chanteuse de jazz que j'aime particulièrement.
On retrouve Olivier Legrand à Narbonne, c'était la semaine dernière. Eh bien, donc je suis à Narbonne, au siège du CIVL, en compagnie de son directeur, Olivier Legrand. Donc, je vais vous demander de vous présenter brièvement, vous, votre fonction et le CIVL, c'est quoi en fait?
Bonjour Bertrand, donc, je suis le délégué général du CIVL, c'est l'interprofession des vins du Languedoc. Alors, de manière assez rapide, une interprofession, c'est la réunion dans un même endroit d'une filière, notamment pour le vin, des producteurs et des négociants. Donc, l'idée, c'est de gérer la filière vin au niveau du Languedoc, depuis la production jusqu'à la commercialisation, et de faire en sorte que les acteurs de la filière se mettent d'accord sur tous les enjeux qui peuvent leur permettre de vendre au mieux leur production.
Alors, on dit la production et le négoce. Alors déjà, c'est quoi ce distinguo?
Alors, on peut distinguer dans le monde du vin trois grandes familles. La première, ce sont les vignerons indépendants. C'est la famille qui est souvent la plus connue, hein. Ce sont des producteurs qui possèdent leur propre vigne, qui récoltent, qui vinifient et qui commercialisent souvent sur le nom de leur propre domaine leur production. Dans la production, il y a aussi les caves coopératives qui sont ici des outils de mutualisation. Donc les adhérents sont des viticulteurs qui adhèrent à la cave coopérative, qui apportent leurs raisins et la cave en retour. Elles vinifient et elles commercialisent sous une marque commune leur vin. Donc ici, on est vraiment sur la partie production.
Chaque vigneron, coopérateur, étant indépendant au niveau de la culture, par contre.
De plus en plus, il y a quand même un souci de la part des coopératives de donner des lignes directrices communes pour s'assurer qu'au final, le produit correspond au mieux à ce que la cave coopérative veut produire et veut proposer à ses clients. Donc il y a quand même aujourd'hui un travail vraiment des coopératives de s'assurer que tout le monde va dans le même sens.
Et après, donc, l'activité de négoce.
Et l'activité de négoce. Donc le négociant est quelqu'un qui achète des raisins ou des mous ou des vins terminés ici pour les commercialiser sous sa propre marque. Donc il va s'adresser parfois à des coopératives, il va s'adresser à des vignerons indépendants pour, encore une fois, acheter leur production sous la forme que je viens de dire, raisins, mous ou vins, pour les assembler et proposer des vins de sa marque. L'idée pour le négociant est souvent de proposer sur les marchés une marque avec tous les attributs de confiance que peuvent rechercher le consommateur. Le consommateur dans les grandes marques de vin, qu'est-ce qu'il va chercher? C'est à la fois sous ces noms-là, une qualité, et une qualité constante dans le temps. Donc l'idée du négociant, hein, très souvent, c'est de faire en sorte qu'il est capable de proposer à sa clientèle des vins qui respectent le niveau qualitatif attendu, et ceci très constant à travers les millésimes.
Alors, il y a toujours, du point de vue des consommateurs, ces grandes questions de dire, quand on est face à un rayon de vin, on est parfois un peu désemparé, on voit des étiquettes AOP, des étiquettes AOC, est-ce que c'est la même chose ? On voit des étiquettes IGP, on voit marqué vin de France, et puis donc, puis on va apparaître aussi le terme de cru, des fois. Donc, quelle est un petit peu la distinction entre tout ça, et comment on peut éclairer un petit peu le consommateur, aujourd'hui, face à toutes ces appellations ?
Alors, la question la plus simple, c'est celle des AOP et AOC. C'est une évolution. L'appellation d'origine contrôlée est devenue appellation d'origine protégée. Donc là-dessus, AOC, AOP sont des synonymes. On n'est pas forcément sur une vision qualitative à travers de la segmentation AOP, IGP et Vins de France. on est sur trois niveaux différents. L'AOP, ce sont des vins dont la production répond à un cahier des charges strict qui va encadrer à la fois les cépages, les rendements, évidemment le lieu de production, les méthodes de vinification. Tout ça pour se dire que le vin d'AOP doit respecter au mieux la typicité de l'appellation du lieu géographique dont il est issu. Saint-Chinian, Faugère, pour ce qui nous concerne, l'appellation Languedoc. Voilà, toutes ces règles, elles sont déterminées au niveau très local pour faire en sorte qu'il y ait globalement une typicité assez générique ou que les vins de l'appellation en question reflètent bien la production locale. Les IGP, et ensuite on va aller vers, j'allais dire, des libertés de plus en plus fortes. Les IGP, donc les indications géographiques protégées, ce sont plutôt des vins de territoire. Ici, on est parfois sur des territoires plus larges et qui offrent des possibilités d'encépagement, de vinification qui sont plus libres. D'accord. Et le dernier niveau, c'est au niveau des vins de France, où là, on est sur une liberté quasi totale, où on peut assembler des vins de différentes régions, on a une très grande liberté sur les cépages, sur la vinification. Donc encore une fois, on n'est pas forcément sur un niveau qualitatif, on est dans ce qu'on recherche au niveau du vin. Est-ce que je vais chercher vraiment un vin parce que cette appellation correspond à mon goût ? Est-ce qu'à un moment, finalement, une IGP va me proposer quelque chose d'un peu inattendu, comme c'est le cas également des vins de France ? Et puis les crus, c'est l'idée de se dire que dans la hiérarchisation dans une appellation, on va un petit peu isoler des lieux qui représentent vraiment une typicité particulière, voire le haut de la pyramide, et qu'on va identifier comme étant le haut de la production de l'appellation ou de la région en question.
Donc les crus relèvent toujours d'une AOP en général ?
Les crus relèvent toujours d'une AOP, parce qu'effectivement, on va, à l'intérieur de l'appellation, ou des groupes d'appellation, on va rechercher ce qui en fait la substantifique moelle.
D'accord, donc si je résume un petit peu, tout est affaire de gérer l'équilibre subtil entre exigence d'un cahier des charges et liberté donnée aux vignerons, sachant que ce n'est pas forcément synonyme de qualité, une appellation n'est pas forcément synonyme de qualité, mais plutôt de respect d'une manière de faire.
Oui, de respect d'une manière de faire. Alors, elle est aussi on en parlera tout à l'heure, elle est aussi le respect d'une qualité, puisque au sein d'une appellation, elle est gérée par ce qu'on appelle une ODG, un organisme de défense et de gestion. Et que cette ODG a pour charge, notamment, de veiller au respect du cahier des charges, des pratiques culturales, de la vinification, et donc un petit peu le gardien du temple de la qualité des vins qui en sont issus.
Donc, transition, justement. Alors que, et quand on parle d'une ODG et qu'on parle d'un syndicat, on parle de la même chose en général ?
Oui, c'est à peu près un synonyme. Oui, de la même manière, on parlait d'AOC, AOP tout à l'heure. Effectivement, les syndicats sont devenus, je crois, dans les années 2000, un peu plus, peut-être 2005 ou 2010, les ODG, organismes de défense et de gestion. Tout est dans leur nom. gestion de l'appellation, c'est-à-dire que c'est elles qui font évoluer parfois les cahiers des charges en fonction des demandes de leurs adhérents, et c'est elles qui en assurent qui assurent que ces cahiers des charges sont bien respectés par leurs adhérents, et puis la défense, parce que il s'agit aujourd'hui de promouvoir la qualité de leurs produits, de défendre les noms. On sait qu'il y a souvent des problèmes d'usurpation des noms. Tous les pays ne reconnaissent pas nos appellations. Je prends l'exemple le plus célèbre. Il y a eu pendant longtemps, dans différents pays, des champagnes californiens ou issus des différents pays. Aujourd'hui, le travail des ODG, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'usurpation de leur nom et de faire en sorte que un vin du Languedoc ne peut être qu'un vin originaire d'une AOP du Languedoc.
Très bien. Donc, il y a des ODG pour défendre aussi bien les AOP que les IGP.
Exactement. D'accord. Et il y a une ODG par appellation, par IGP.
Ces ODG sont toujours des organismes structurés, avec des salariés, des contrôleurs, ou est-ce que pour les petites appellations, ça leur repose sur parfois du bénévolat, des choses comme ça, je ne sais pas.
Oui, c'est en lien avec l'importance de l'appellation. Effectivement, pour des très grandes appellations, on a des structures qui peuvent être relativement large. Pour les petites ODG, quand on est sur des petites appellations, très souvent ce sont des équipes très légères, voire même il peut arriver qu'il y ait des regroupements d'ODG pour mutualiser des services finalement et pouvoir remplir au mieux leur mission.
Et alors donc, vous vous êtes présenté au début de cet entretien comme directeur d'une interprofession. Donc, comment se positionne l'interprofession par rapport à ces ODG dont nous avons parlé ?
Alors, je l'ai dit, l'interprofession, c'est l'idée que... L'interprofession, il n'y en a pas que dans le vin, il y en a dans toute la filière agroalimentaire. Donc c'est l'idée que on va travailler l'intégralité de la filière depuis la production jusqu'à la commercialisation. Donc on va réunir l'ensemble des acteurs qui représentent un petit peu ces deux grandes familles. Donc le CIVEL aujourd'hui est composé de deux grandes familles d'adhérents. D'un côté la famille de la production, et cette famille est représentée justement par les ODG. Et de l'autre côté, il y a la famille du négoce, représentée par le syndicat du négoce. Pour le dire un peu simplement, par exemple, au CIVL, pour les AOP, il y a du côté de la production 17 adhérents, chacun représentant son appellation. Et en face, il y a un syndicat représentant, une organisation professionnelle représentant les intérêts du négoce.
Alors plus précisément sur notre région, je me place du point de vue du consommateur, on parle souvent des vins du Languedoc et on voit souvent marqué AOP Languedoc. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le Languedoc est une AOP ? Est-ce que le Languedoc est une région ? Est-ce que c'est les deux à la fois ?
C'est les deux. C'est à la fois une famille et un nom de famille. Effectivement, le Languedoc, c'est à la fois, dans le terme, dans la famille, c'est ce qui regroupe l'intégralité des AOP du Languedoc, dont fait partie l'AOP Languedoc, donc l'AOP Languedoc, Saint-Chinian, Faugère, Picpoul de Pinet, Malpère, Corbière, etc., font partie des AOP du Languedoc. Et puis, il y a l'AOP Languedoc elle-même, qui est une appellation qui est la plus grande de la région, qui s'étend depuis les portes de Nîmes jusqu'à Perpignan, et qui est une seule et même appellation. C'est une appellation régionale.
D'accord. Ça veut dire qu'un même vigneron peut très bien faire de l'AOP Saint-Chinian, mais avoir aussi une cuvée.
Il peut avoir des vignes effectivement en Languedoc sur les. À condition, c'est toujours la réflexion à avoir, mais que on est bien quand on produit sur l'aire d'appellation Languedoc. Thank you.
sun, tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Tears from a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
Alors aujourd'hui, on est en 2025, pas mal d'aléas récents climatiques, une situation économique un peu compliquée, géopolitique, n'en parlons pas. Comment se positionne aujourd'hui la filière viticole en 2025 et est-ce qu'on peut brièvement, parce que je suppose qu'il y aurait énormément à dire, faire une sorte d'état des lieux aujourd'hui de cette filière?
Alors, je dirais qu'aujourd'hui, cette filière, elle fait preuve d'une résilience extraordinaire parce qu'elle affronte une succession de difficultés qui sont de tous ordres. Alors qu'on peut faire remonter quasiment depuis le Covid, hein, qui a été une situation très, très difficile, époque à laquelle on a vécu les premières sanctions de l'administration Trump en termes de droits de douane. Et puis, depuis plusieurs années, on a à la fois des difficultés, j'allais dire, de court terme, hein, liées à la situation macroéconomique, à la situation géopolitique. Avec cela, il y a toutes les difficultés aujourd'hui liées au changement climatique, qui sont à la fois de plus long terme, mais dont les effets sont d'ores et déjà très présents et de manière, j'allais dire, de plus en plus brutaux, et auxquels doivent s'adapter la filière. Donc, effectivement, ce sont plutôt des grandes difficultés, et je parlais de résilience parce qu'on a la chance en France d'avoir une filière vin qui est une filière historique et qui a toujours su s'adapter et rebondir. On parle souvent de la concurrence des vins du Nouveau Monde, il faut voir que les vins du Nouveau Monde, les vins australiens notamment, les vins chiliens, c'est une industrie, c'est un business un peu comme un autre. Il ne faut pas croire qu'actuellement la crise qui frappe le monde du vin ne frappe que les vins français, il est assez général. En Australie, quand il y a la crise, ben finalement les grandes entreprises du monde du vin arrêtent d'acheter des raisins et on arrache de manière assez brutale, purement et simplement, les vignes, et puis on fait autre chose, on va faire du kiwi ou d'autres cultures. Nous, on a quand même une culture du vin en France qui fait que la filière continue à chercher à s'adapter, et ceci dans tous les domaines qu'on a pu évoquer, qu'ils soient commerciaux, mais qu'ils soient aussi de trouver des solutions au changement climatique.
Est-ce que c'est dû justement, cette résilience, à au fait que justement le vin n'est pas abordé comme un produit comme un autre en France et qu'il n'est pas abordé comme une industrie justement.
Oui, c'est exactement ça. On faisait le parallèle avec les vins du Nouveau Monde, hein, qui souvent sont entre les mains de très grosses entreprises, hein, qui ont une approche, encore une fois, industrielle. Et quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste en termes de process. En France, il y a un attachement du vin, que ce soit du côté des producteurs, mais aussi des consommateurs, comme d'un produit de terroir qui est emblématique de la France, de sa culture, de son savoir-faire. Voilà, une production qui est multicentenaire. Et effectivement, cet attachement viscéral fait que la filière, elle trouve toujours des capacités à rebondir, encore une fois, malgré des difficultés qui sont actuellement très fortes.
Alors, des difficultés assez fortes liées, entre autres, à l'évolution climatique, on en a un peu parlé, mais aussi peut-être avec des nécessités de se transformer au niveau environnemental. Comment ça se traduit dans la filière vigneronne? Quelle est l'évolution du bio, par exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport au problème de sécheresse, il y a des recherches au niveau de cépages plus adaptés? Est-ce qu'il y a des méthodes innovantes de vinification plus... j'ouvre plein de guillemets, propre, comment ça se traduit, cette démarche un peu globale que l'on voit par rapport à une production plus vertueuse du point de vue environnemental?
Alors, le premier élément peut-être à garder en tête, hein, c'est dans l'adaptation au changement climatique, je pense qu'on a tous collectivement, on s'est tous dit finalement que c'est un changement qui allait se faire de manière graduelle et qu'on allait tous prendre une année après l'autre 0,1 degré par-ci, 0,1 degré par-là. C'est un petit peu comme quand l'eau chauffe dans votre casserole et que vous mettez tant en temps le doigt et vous vous brûlez pas tout de suite. Et en fait, le changement climatique, il amène aussi du dérèglement climatique, ce qui est sans doute beaucoup, je ne dirais pas beaucoup plus compliqué, mais en tout cas, à court terme, qui donne un très fort degré d'imprévisibilité. J'en parle parce que c'est important, parce que l'année dernière, la production française de vin a chuté de 25%. Et pourtant, elle n'a baissé que de 10% en Languedoc, qui est un des bassins sur lequel le réchauffement climatique devrait marquer le plus. Pourquoi on a baissé de 25%? Parce qu'il y a des régions qui ont été touchées par des accidents climatiques, des orages, de la grêle, du gel, qui ont fait qu'on a fait moins 30% en Champagne et en Bourgogne, moins 75% je crois dans le Jura. Donc ça pour vous dire que, allez, on le dit souvent, le Languedoc est à la pointe extrême de cette lutte contre le changement climatique, mais le dérèglement climatique touche tous les vignobles. Alors, comment on s'y adapte? On s'y adapte déjà, effectivement, vous l'avez dit, parce qu'on doit faire en sorte de proposer aux consommateurs aujourd'hui des vins qui sont plus respectueux de l'environnement. Donc effectivement, il y a de nombreuses démarches sur le bio, sur ce qu'on appelle le HVE, haute valeur environnementale, pour diminuer les intrants dans les produits qu'on utilise pour protéger le raisin, notamment contre les maladies. La part du bio aujourd'hui en Languedoc, elle est de l'ordre de 20 à 25% et elle est en production, en progression. Et attention, parce qu'on parle ici du bio, mais il faudrait quasiment doubler les chiffres si on parle des maisons, des domaines qui ont aujourd'hui des pratiques qui sont responsables environnementalement. Donc il y a aujourd'hui des choses qui ne sont pas forcément dans le bio, mais qui relèvent de pratiques durables et très respectueuses de l'environnement. Voilà. Donc, et puis il y a beaucoup d'appellations qui s'orientent vers un développement du bio ou de ces pratiques environnementales avec des visées de production à échéance très brève, à hauteur de plus de 50%.
Et par rapport au problème de l'eau, alors comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, il y a effectivement le problème de l'eau. Pour faire face à tout ce changement climatique, on voit se développer beaucoup de pratiques qu'on va appeler, d'un terme générique, de la culture régénérative, c'est-à-dire de toutes les pratiques qui vont faire que l'on peut améliorer la qualité du sol, la biodiversité, que l'on peut préserver la ressource en eau. Donc toutes ces pratiques culturales à la vigne, mais aussi au chai. Hein. Il y a aussi beaucoup de producteurs qui ont engagé des très fortes réflexions pour diminuer leur usage de l'eau de manière très très importante ces dernières années. Et donc là-dedans, on va avoir vraiment un foisonnement d'initiatives comme l'agroforesterie, hein, qui est de chercher la meilleure adéquation finalement comment est-ce que rapprocher des arbres, des végétaux de la vigne, comment est-ce qu'on peut en tirer des avantages conjoints. On va pour utiliser des animaux comme des moutons pour le pâturage dans les vignes. On va rechercher tout ce qui peut améliorer la biodiversité. On a aussi des adaptations de plus long terme, avec des cépages, notamment, qu'on va appeler résistants aux maladies, résistants à la sécheresse. En Languedoc, on a la chance d'avoir un chercheur qui, il y a de nombreuses années, s'était intéressé, qui était vraiment un précurseur, qui s'appelle Alain Bouquet, qui s'était intéressé à ces problématiques, et dont aujourd'hui, on utilise le travaux sur les cépages pour les développer, parce que ce sont des cépages qui offre à la fois de très bonnes qualités de résistance à la sécheresse et aux maladies, et qui en plus produisent des raisins de très grande qualité. Mais là, évidemment, on est sur des perspectives plutôt de moyen terme.
Et puis je suppose que ça nécessiterait de faire évoluer aussi les cahiers des charges, s'il y a des nouveaux cépages.
Alors effectivement, il y a des questions sur l'évolution des cahiers des charges, c'est tout à fait vrai, pour avoir une meilleure adaptation, pour faire en sorte que ces cahiers des charges ne se transforment pas aussi en piège pour leurs producteurs, puisqu'un jour, s'ils étaient en incapacité de pouvoir y répondre en raison de ces actions climatiques. Et là, on voit une adaptation qui fait que aujourd'hui, il y a une possibilité de faire évoluer de manière parfois temporaire et plus rapide les cahiers des charges, qui sont moins rigides que ce qu'on a connu, donc pour offrir des solutions à vraiment toutes ces problématiques de court terme qui peuvent se poser.
C'était donc la première partie de cette longue et riche interview que tu as menée, Bertrand, avec Olivier Legrand. Le mois prochain, on va faire une autre émission sur d'autres sujets que tu as abordés pendant cette interview. Si tu peux nous en donner quelques mots.
Oui, effectivement, cette interview était très riche et donc on a décidé de répartir sa diffusion sur deux émissions. Et là, la prochaine fois, j'allais dire la semaine prochaine, le mois prochain, la prochaine fois, nous aborderons plutôt la question de l'évolution de la consommation de vin en France et à l'international, l'évolution des goûts des consommateurs, et puis aussi les perspectives d'avenir pour cette filière dans un contexte économique et géopolitique de plus en plus compliqué.
Et on vous laisse avec Sting et Mélodie Gardot pour une petite chanson en duo pour vous dire au revoir et au mois prochain.
I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out.
Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it. I'm not the others. We could keep it simple as la-da-da-da-da. We could keep it simple as don't call me lover. Stop thinking about it, thinking about it.
We could be a little something. The melody you keep on humming. A feeling so sweet and subtle. Puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused.
Don't call.
something.
We could be a little something.